Cette semaine, on a lu Le vieil homme et la mer d'un illustre auteur, mais plutôt inconnu, Ernest Hemingway, qui a été prix Nobel de littérature en 1954.
Là où ça sent la merde, ça sent l'aide.
Si vous aviez à vous définir d'un mot, qu'est-ce que vous diriez ?
Eh ben, c'est que je travaille et les autres foutent rien. On a exactement ce que je pense.
Je veux dire l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain.
On n'est pas très beau, on n'est pas très riche. Il fait pas très beau, il fait pas très riche. Mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fout ? On a la littérature. Bonjour et bienvenue à Deux Hommes et un Bouquin, le podcast qui prend les livres par le quatrième de couverture ! Salut J.A.
Salut Mathieu, comment ça va chez toi ?
Bah, je viens de te le dire, ça va pas mal. Il fait moins 8 degrés. En fait, à un moment, on a eu un frémissement au mois de décembre. On a cru qu'on allait peut-être dépasser les 10 degrés. Et puis, on est retombé tempête de pluie. Donc, ouais. Il fait froid, mais ça va. D'ailleurs, je voulais te féliciter pour ton introduction. C'était vraiment pas mal.
Bah écoute, je te remercie. D'autant plus que moi, je suis dans l'hémisphère nord. Donc, chez moi, les jours rallongent. Quand chez toi, il irait raccourcissent, vu que je reprécise pour ceux qui ne le savent pas, mais tu es à Wellington.
Et oui, j'ai oublié de le dire. Effectivement, ouais, je suis à Wellington. C'est vrai que j'en parle plus du tout parce que je me dis qu'on a. Ça y est, maintenant les gens sont habitués, ils ont un certain rythme de croisière. Je suis là. Je te remercie de le préciser en tout cas.
J'aime beaucoup quand tu files cette métaphore de la mer, de la croisière. La poissonnerie. Non, je pense qu'il y a un lien avec notre bouquin du jour, non ?
Non, je l'ai fait totalement au hasard. Mais alors, ça tombe vraiment bien, comme tu le dis, puisque en fait, on va cette semaine, en fait, on va étudier Le vieil homme et la mer, comme tu l'as précisé en introduction. Donc, Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Un roman qui porte très bien son titre, puisque il parle d'un vieux pêcheur cubain. Est-ce que tu veux nous faire une petite biographie d'Ernest Hemingway, rapide ou bilou ?
Ouais, alors pour faire rapide, il est né en 1899 dans l'Illinois, pas loin de Chicago. Il a été tour à tour enfant, adolescent, adulte, comme tout le monde. Mais entre-temps, il a été reporter, ambulancier pendant la Première Guerre mondiale, ensuite militaire, puis écrivain à Paris, et enfin correspondant de guerre en Espagne, avant de revenir et de se terminer par se tirer un coup de fusil dans la tête en 1961, après une longue maladie. Et puis ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il a quand même été prix Nobel de littérature en 1954, ce qui n'est pas rien quand on n'a même pas le bac en poche.
Ouais, c'est quand même un certain accomplissement, puisque c'était vraiment une époque des grands aventuriers, de ces hommes qui avaient de multiples vies. Et Monsieur Hemingway a eu quand même énormément d'expérience, hein, dans sa vie. Il a participé à de multiples guerres, il a gagné de multiples prix, il a connu de multiples femmes et de multiples maladies.
Ouais, un peu comme Jacques Londres en son temps, en fait. On pense que c'est un peu un Jacques Londres bis. Hein.
Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un Jacques Londres beau gosse et barbu.
Très beau gosse, exactement.
Ouais, parce qu'on a regardé sa photo en uniforme pendant la Seconde Guerre mondiale ensemble. Alors on vous invite à aller regarder ça sur Internet, sur sa page Wikipédia. Et c'est un portrait craché de Tom Cruise.
Il y a du Tom Cruise en lui, et on doit avouer, sans une pointe de regret, qu'il y a aussi du Kadhafi dans ce Hemingway jeune et élégant dans son costume militaire.
Alors écoute, après cette rapide introduction, qui au final nous aura pris quand même 5 bonnes minutes, est-ce que tu veux qu'on passe au vieil homme et la mer ?
Écoute, je suis paré à l'abordage.
Alors, Le vieil homme et la mer, c'est une œuvre, au final, dans le grand œuvre hemingwayen, c'est une œuvre assez tardive, je pense, puisque ça a été publié exactement en 54 ou 53
en 1953, exactement, qui d'ailleurs a reçu le prix Pulitzer cette année-là. Donc, à noter que c'est le deuxième prix Pulitzer que l'on traite dans ce podcast. Voilà, sans aucun lien avec le précédent, vraiment aucun. Et ce qui n'est pas plus mal, et ça nous réjouit quand même pas mal.
Ouais, puisque le précédent, on va quand même le préciser. En fait, c'était notre tout premier épisode, l'épisode pilote, qui était sur Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, qui avait gagné le prix Pulitzer dans les années 60.
Et épisode pilote, ce n'est toujours pas là pour le coup, ce n'est pas voulu, c'est pas la métaphore filée toujours maritime. C'était vraiment l'épisode pilote.
Exactement, tout à fait. Mais je te remercie en tout cas de remarquer, hein, quand il y a des métaphores, il faut pas les laisser tourner dans le vide comme ça, il faut les remarquer. Hein.
Alors, les remorquer, ouais. Les remorquer ou les tirer à la canne.
Alors bah, du coup, moi je te propose d'attraper cette bouée que je te lance et de venir t'embarquer dans le bateau de la narration. Alors, est-ce que tu veux raconter... Alors, ça va aller très vite, hein, puisque c'est un livre d'à peine 100 pages, que d'aucuns considèrent comme une nouvelle, mais qui est officiellement un roman, puisque ça a été publié en tant que soi-même. Alors, est-ce que tu veux nous raconter l'histoire ?
L'histoire, elle tient en très peu de mots. On est dans les Caraïbes, on est même vers Cuba, au milieu du XXe siècle, avec un vieux pêcheur qui n'a pas récupéré de poisson depuis près de plus de 80 jours et qui s'embarque sur l'océan sachant que à la recherche d'un gros poisson, d'une belle prise, il finit par la ferrer, et ensuite s'ensuit une longue lutte à la fois contre le poisson et contre lui-même.
Il est un peu la risée de son quartier de la Havane, puisque ça se passe à Cuba, on le répète. C'est un peu, tout le monde se moque de lui, quoi, puisque c'est un peu le vieux qui part toujours à la pêche, mais qui n'attrape toujours rien depuis plus de 80 jours, mais qui a quand même à ses côtés ce petit gamin.
Ouais. Ce petit gamin, donc, en fait, il le traite toujours comme un enfant. On a l'impression que ça pourrait être son fils, enfin, son petit-fils un peu spirituel. Mais à aucun moment l'âge de l'enfant n'est déterminé, et on apprend au fil du récit qu'en fait ce jeune enfant est un très très bon pêcheur qui s'embarque déjà sur des gros bateaux. Donc en fait, au début, moi j'imaginais que c'était vraiment un enfant, qu'il avait 7-10 ans, que c'était juste un apprenti qui l'aidait à recoudre ses filets. En fait non, c'est un vrai adolescent, physiquement à l'aise, fort, etc., qui est déjà un très très bon pêcheur par lui-même.
Ouais, apparemment il se débrouille, il va sur d'autres embarcations, et puis il est tout à fait capable aussi d'avoir ses propres équipements et de savoir les manier, puisqu'il a fait ses premières armes avec ce vieux. Je voulais juste revenir justement sur cette expression, je suis désolé, c'est salao. Salao apparemment ça veut dire vraiment très... qui est frappé de malchance. Donc ils appellent, ouais. Ils disent que le vieux, ça c'est au tout début, apparemment qu'il serait finalement salao, qui est la pire forme de malchance.
Alors figure-toi que j'ai une anecdote aussi sur... alors pas sur Salao en tant que tel et sur le nom, mais sur le manque de chance qui accompagne plusieurs des personnages d'Hemingway. C'est en cherchant Le vieil homme et la mer chez moi, je l'ai pas trouvé, mais je suis tombé sur une autre nouvelle qui s'appelle Le vieil homme près du pont, donc qui a été écrite par Hemingway quand il était correspondant de guerre en Espagne pendant la guerre civile, donc 36-39. Et c'est la même chose, c'est que le vieil homme termine le récit donc non pas par la mort, etc., mais par encore une fois appuyé sur son manque de veine. La traduction veine pour chance est exactement la même dans le bouquin en français. Le terme chance est assez peu employé et il est remplacé par la veine, ce qui en dit d'autres en fait sur la façon d'écrire d'Hemingway, qui est toujours dans le vécu, dans le vrai. Il est peu dans les... Donc les mots ont un sens et ils utilisent les mots courants. Ils utilisent beaucoup des mots du commun pour écrire ces livres.
D'accord, ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Pour ma part, moi j'avais lu qu'un seul livre d'Hemingway auparavant, qui était Pour qui sonne le glas.
Bah, aussi écrit pendant la guerre d'Espagne.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'était je rebondissais un peu comme une balle sur un thorax.
Tu as déjà vu des thorax repousser des balles ?
Je sais pas, j'avais juste envie de faire une métaphore rapidou, et puis je me suis dit, tiens, je vais la faire, et personne va remarquer que ça marche pas du tout. Du coup, merci, tu es un traître.
Ça rebondit aussi bien que Carlos qui tombe d'un hélicoptère.
Voilà. Bah ouais, tout à fait. Est-ce que tu crois qu'il a réellement rebondi ?
D'aucuns diraient qu'il a rebondi, d'aucuns.
D'accord. Ouais, donc bah oui, je reviens juste sur pour Kissen le Glas, donc qui se déroule aussi dans pendant la guerre civile espagnole. Et il y avait aussi cette notion de veine et de malchance. Alors par contre, je l'ai lu il y a 15 ans, donc je peux pas te dire exactement le contenu comme ça. Donc pour revenir sur le livre, donc à l'instar d'à peu près toutes les œuvres littéraires d'Hemingway, il s'agit toujours du combat entre un homme et une série d'autres hommes ou une créature, en l'occurrence là un marlin, on y reviendra. Un marlin, c'est un gros poisson, donc plus gros qu'un espadon. Et donc il y a toujours cette idée de combat. Et le vieil homme part en escapade en bateau. Et il décide de s'aventurer en haute mer pour finalement ne plus être salao et avoir la chance d'être celui qui va attraper le plus gros poisson de la saison.
Et donc Lien utilise toutes les connaissances acquises auparavant, parce que même si c'est un vieil homme, rapidement on comprend que auparavant c'était un des êtres les plus puissants, les plus forts. D'ailleurs, il y a une longue anecdote qui parle de ça, de sa force au bras de fer, de sa résistance, de sa résilience face à un énorme colosse qui finit par vaincre grâce à sa dureté.
Et qui dure, c'est un match de bras de fer qui dure 3 jours, je crois. Deux ou trois jours.
Oui, qui dure, en fait, qui débute un dimanche et qui se termine un lundi soir, ou quelque chose comme ça. Et ouais. Dont les juges doivent se relayer pour se permettre de dormir. Donc ça, et en fait, cette anecdote du bras de fer, on la ressent immédiatement. Enfin, disons, c'est la métaphore de la lutte de ce vieil homme quand il finit par ferrer un énorme poisson. Donc il le ferre, et pour l'épuiser, il lui fait tirer sa barque, en fait. Le poisson tire la barque.
En fait, il s'aperçoit très rapidement que ce poisson est hors norme, en fait. C'est un poisson dont il a jamais vu la taille auparavant, qui est doté d'une force colossale, et qui peut qui tracte le bateau, et qui est probablement beaucoup plus gros que le bateau. Donc il avait placé une série d'appâts, et le poisson s'est chargé de les bouffer. Et donc on a s'ensuit donc ce combat passif, puisque en fait c'est juste un combat d'épuisement, en fait, entre le poisson et l'homme, donc qui va céder le premier. L'homme est dans son bateau, dans sa barque, et donc on a plusieurs jours où en fait le poisson va le tracter ou attendre, et donc et il voit jamais le poisson pendant ce temps-là, donc il sait pas du tout à quoi il ressemble. Il sait juste que c'est une créature colossale.
Le thème du bouquin est là, en fait, et c'est assez étonnant d'ailleurs qu'il s'appelle Le vieil homme et la mer. Je sais pas comment quel est le titre en anglais, j'imagine que ça doit être une traduction quasiment littérale, non?
The old man and the sea.
Voilà. Et donc cette traduction, disons que ce titre me surprend un peu, parce que le vrai thème du livre, c'est pas du tout le rapport de l'homme à la mer, en fait. C'est le rapport de l'homme à son combat contre un poisson. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, tout à fait. Ouais, absolument. D'ailleurs, on a très peu de descriptions de la mer en elle-même, ou même du monde marin. Mais par contre, on a énormément, et d'ailleurs, on peut noter l'amour d'Hemingway, entre autres, de la pêche, puisqu'il aimait la pêche en haute mer. Il y a énormément de descriptions de la pêche et des techniques de pêche. Et ça, au final, quand on le dit comme ça, ça peut sembler un peu du Frédéric Nihous, chasse-pêche, nature et tradition, un peu chiant.
RPZ, RPS, Fred.
Ouais, represent. Mais au final, c'est vraiment très intéressant. Et c'est assez étonnant, en fait, de voir comment ça marche, puisque c'est un monde que finalement on connaît peu. C'est pas juste de la petite pêche, c'est vraiment de la pêche en haute mer et des différentes techniques utilisées pour appâter donc les plus gros poissons possibles.
Et là on parle d'un très vieil homme, en fait, d'un homme. On imagine qu'il approche les 70, les 80 ans, et il utilise des méthodes qui sont très très archaïques. Il tient la ligne avec ses mains, il l'enroule autour de son dos pour bien sentir quand le poisson tire, etc. C'est pas du tout la pêche au moulinet dans la Meuse. Hein. C'est quelque chose d'assez compliqué. Quand même. Et avec des méthodes, il utilise des très très vieilles méthodes, en fait.
Et, Et à la fois pour la pêche et aussi pour son propre corps aussi, puisque quand il a ses problèmes de crampes à la main et quand il se blesse, il utilise l'eau de la mer, il utilise aussi des techniques psychologiques pour épuiser le poisson. Donc ouais, comme tu l'as dit, c'est vraiment très très archaïque. Il faudrait se pencher sur ce personnage du vieillard, puisque il parle tout seul en fait. Donc c'est ça un peu l'intérêt du truc, c'est qu'il discute avec lui-même tout le temps en fait.
Ouais, il discute avec lui-même. C'est un peu comme quand on est tout seul chez soi et qu'on commente chaque chose qu'on fait. Soit c'est pour la faire mieux ou pour essayer de comprendre pourquoi on fait les choses. Lui en tout cas il fait ça. Donc il parle au poisson, il se parle à lui-même, il se répond. À un moment j'avais vraiment l'impression de voir Gollum dans le Seigneur des Anneaux en fait. C'est tu dois pas faire ça, tu dois pas réfléchir de cette façon-là, le poisson va le sentir, il va t'échapper. Mais non, t'inquiète pas, je suis assez solide pour lui résister. Et il y a pas mal de dialogues comme ça où il se répond à lui-même. Et d'ailleurs, dans le village, les gens le considèrent pas comme fou, mais disons comme un vieillard un peu sénile pour cette raison-là, parce qu'il parle tout seul. Et en général, il se cache un peu quand il parle tout seul. Il perçoit ça même un peu comme une... Il a un peu honte de ça. Alors qu'en fait, c'est ce qui fait vraiment le sel du livre, c'est ce combat intérieur entre lui et lui qui apparaît donc à partir du moment où il a ferré le poisson. C'est un combat entre lui et lui, et entre lui et le poisson. Le poisson est très humanisé dans le bouquin, et à la limite, il respecte plus le poisson que les autres hommes. Par exemple, j'ai plusieurs citations sur le sujet, je vais en prendre une. « Tu veux ma mort, poisson ? Pense à le vieux. » C'est ton droit. Camarade, j'ai jamais rien vu de plus grand, ni de plus noble, ni de plus calme, ni de plus beau que toi. Allez, vas-y, tue-moi. Ça m'est égal, lequel de nous deux tue l'autre. Et donc cette citation, elle signifie vraiment que le vieil homme a trouvé son égal dans ce poisson surpuissant et vraiment très très, enfin, très noble, comme il le dit lui-même.
Mais c'est d'ailleurs même vers la fin, tu sais, tu disais qu'il avait peut-être plus de respect pour le poisson que pour l'homme. Il y a des moments où il se demande même s'il va réussir à survivre, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il est vraiment vieux, et il va se dire, il se demande qui va gagner donc ce combat, et il se dit au final, qu'est-ce qui se passe si je rentre pas, qui c'est qui va m'attendre? Et il pense à ce petit garçon donc. Qui, comme tu l'as dit, n'est plus vraiment un petit garçon, mais plutôt un adolescent. Il y pense avec tendresse, mais il se dit que finalement, s'il meurt, c'est pas si grave que ça. Il aura vécu un combat qui sera le plus important de sa vie, au final.
Le but, clairement, du bouquin, c'est de montrer l'importance du combat, en fait, dans la vie. En fait, c'est l'importance, non pas de la finalité, mais de la manière et du processus pour y aller. Mais disons, c'était la démarche qui a amené le vieux à combattre contre le marlin, à résister au marlin, à réussir à le fatiguer, à prouver son intelligence, etc., face à un animal qu'il considère comme aussi noble que lui. Donc toute la force du bouquin réside dans cet aspect combat entre deux personnes, en fait, et à un même niveau de noblesse, en fait.
Tout à fait. Est-ce que toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ça? Est-ce que t'as trouvé que ça faisait du sens?
Ah oui, bah c'est sûr. Disons, c'est vraiment une combinaison entre le fond et la forme. C'est comment est-ce qu'on veut arriver à un objectif et quelles sont les forces qu'on met à disposition pour y accéder. Et je trouve que ce rapport entre les deux est très très beau, d'autant plus qu'il il privilégie tout le temps la noblesse donc de la façon de faire, hein, donc la résilience du vieux, sa façon de décrire toutes les techniques de pêche, etc., sont beaucoup plus importantes que le moment lui-même où il parvient enfin à capturer le poisson. Et d'ailleurs, la fin qui n'est clairement pas un succès, parce que cette pêche ne se termine pas en succès, contrairement à ce qu'on a l'air de dire. Donc voilà, cette fin là indique clairement que l'objectif du vieux n'était pas de remporter le combat, mais surtout d'y participer.
Alors je pense qu'il y a aussi une importance, c'est qu'au final ils sont pas que tous les deux là-dedans. Il y a aussi la participation d'éléments extérieurs, que ce soit les intempéries ou d'autres créatures. On le voit régulièrement, et ça c'est assez intéressant, je ne sais pas si ce que tu en as pensé, on le voit régulièrement attraper d'autres poissons. En fait, il attrape d'autres poissons pendant qu'il est encore en train de combattre avec ce marlin. Et il attrape par exemple des dauphins.
Que j'avais fait un bestiaire complet du bouquin, et moi j'avais des dauphins qui passaient à côté du bateau, ou en tout cas ils rêvaient de dauphins. Il y a un truc qui m'a fait vachement rire aussi, et ça m'a fait vachement penser à mes grands-parents. Alors, parce que mes grands-parents sont pêcheurs, bien entendu, et les marlins, tout ça, c'est des spécialistes. Non, mais par rapport au fait que les vieux doivent se forcer à se nourrir. T'as pas aperçu ça en version originale ?
Si, parce qu'il est toujours il est toujours en train de se dire, est-ce qu'il serait pas le temps de manger ? Et puis, vu qu'il est tout le temps en train de se parler à lui-même, il se dit, bon alors là, ce serait peut-être le moment que je mange, parce que peut-être que dans 5 heures, ça se passera pas aussi bien. Et puis après, il se répond, il se dit, mais alors, est-ce que t'as pas peur d'avoir une indigestion ? Et il se dit, non, là, c'est le moment de manger, surtout qu'en plus, le poisson va peut-être pourrir demain. Donc oui, tout à fait, ouais, c'est vrai qu'il se force, et il a toujours cette... C'est pas qu'il a faim, en fait, c'est qu'il a cette logique, en fait, de survie. Et il se dit, quel est le meilleur moyen de survivre ? Ça va être de manger de manière tactique. Ouais.
D'autant plus que, comme tous les vieux, en fait, il ressent pas du tout la faim ni la soif. Et
non, tout
et
à fait.
C'est assez marrant.
Ouais, y a plusieurs fois où il se dit... Ouais. Il y a plusieurs fois où il se dit, bah tiens, peut-être qu'il faudrait que je boive à ce moment-là.
Voilà, parce que, en fait, c'est un vieux, donc il est hyper résistant. On l'imagine tout corné, tout fripé. En fait... avec de la corne sur les mains, le visage hyper marqué, très hâlé par le sel de l'eau et le soleil des Caraïbes. Et à côté, et il part en mer avec des stocks, mais pour un, enfin, nous on va faire un pique-nique dans le parc Monceau, c'est pareil, on part avec autant de stocks que lui, quoi. Lui il part avec une demi-bouteille d'eau et deux filets de sardines, même pas en conserve. Et avec ça, il va réussir à tenir 3 jours et...
Oui, c'est... Mais d'ailleurs, il y a un moment où il se reproche quand même de ne pas avoir prévu assez de vivres. Il y a un moment où il se dit, mais ça fait des années, ça fait des décennies que tu pêches, mais t'arrives encore à partir en mer avec rien du tout.
Ouais, à partir de là, je vais te dire une nouvelle citation. C'est donc ce rapport qu'il a avec l'audace, donc ce qui indique peut-être pourquoi est-ce qu'il part toujours avec aussi peu de vivres. C'est parce qu'il est dans une forme d'habitude, dans l'audace continuelle. En fait, il veut pas se laisser mourir parce qu'il est vieux. Il y a aussi un peu de ça, je pense. Donc, j'ouvre les guillemets. Donc là, c'est Hemingway qui parle. C'est pas le vieux qui se parle à lui-même. Qu'il l'eût déjà prouvé 1000 fois, cela ne signifia rien. Il fallait le prouver encore. Chaque aventure était nouvelle. Dans l'action, le vieux ne pensait jamais au passé. Qu'est-ce que tu penses de cette citation ? C'était moi, j'ai ça à peu près au milieu du bouquin.
J'avais pas pensé à cette citation, mais c'est vrai qu'elle est c'est assez représentatif finalement à la fois de ce personnage et aussi d'Hemingway en lui-même, puisque bon, on l'imagine tout à fait comme ça, en quête d'aventure et en quête de je dirais de panache, en fait, d'actions qui ont du panache, des belles choses à la fois élégantes,
ouais, dans un style un peu différent, et je viens d'y penser, mais dans un style un peu différent, on peut le rapprocher d'un Malraux, en fait. Pour qui les livres étaient en fait avant tout une représentation de l'action. En fait, c'était rarement des livres passifs, mais ça n'empêchait pas à chaque fois des analyses psychologiques très très fines des personnages. Je pense à ça notamment parce que ces deux hommes avaient à peu près vécu aux mêmes périodes. Ils ont notamment la guerre d'Espagne comme cause commune entre 1936 et 1939. Et Malraux comme Hemingway parlaient des choses qu'ils avaient vécues, en fait. Leurs grands romans sont sur des choses qu'ils ont vécues. Par exemple, quand Hemingway parle du vieil homme et la mer, il est un peu en fin de vie, il a déjà 55 ans et il était très malade. Donc on peut le représenter.
Il s'est suicidé à 61 ans. Ouais. Effectivement, il était sur la fin de sa vie.
Il a toujours été très malade, c'était des suites de blessures de guerre, etc. Et donc, en fait, on peut très aisément l'imaginer se représenter dans ce vieil homme. Idem pour tous les livres d'Hemingway, en fait. Il parle que de choses où il est allé. Pour qui sonne le glas, donc c'est un livre qui se passe dans la guerre d'Espagne, et il l'a écrit quand il y était. C'est pas du tout un écrivain qui va parler de... des accidents du métro ou de la façon dont il prend des rails de coke sur le capot d'une voiture, en fait. C'est un écrivain qui vit des qui cherche l'aventure et qui, après, le retranscrit.
Et qui crée des cocktails aussi.
Des cocktails, bien évidemment. Des cocktails explosifs, des cocktails...
des cocktails Molotov, ouais.
Voilà, j'y pensais très fort.
Et d'ailleurs mais pour revenir sur ce que tu disais, ce combat entre lui-même et le poisson, ça résonne vraiment dans la vie d'Hemingway, puisque c'était une période de vide dans sa vie. C'était une période où il avait beaucoup moins de succès avec les femmes puisqu'il était impuissant, beaucoup moins d'inspiration littéraire, beaucoup moins d'envie même. Puisqu'il s'en sentait aussi ses capacités physiques décroître, il avait aussi physiquement moins de capacités de voyager et de vivre des choses. Donc cette période de disette que vit son personnage, c'est un peu ce que vivait Hemingway personnellement. Donc c'est pas pour rien s'il a écrit Le vieil homme et la mer à ce moment-là.
C'est, ouais, d'autant ça représente plus que énormément... Ouais. D'autant plus, je sais pas si on l'a précisé, mais à ce moment-là, lui-même vivait dans les Caraïbes, hein, parce qu'il écrit jamais des livres sur un sujet qu'il ne connaît pas. C'est pas du jus de crâne, en fait, Hemingway, c'est du réel, il parle que du réel. Et d'ailleurs, j'ai encore une citation qui n'est cette fois pas extraite du bouquin. Donc alors, c'est sur la façon dont il écrit. Alors, ce qu'il faut, c'est dire en une seule phrase, vraie, la phrase la plus vraie que tu connaisses. Et donc c'est ça qui incite à parler toujours de ce que lui vit, de ce que lui est en train de vivre. Et donc là, on peut percevoir clairement que Le vieil homme et la mer, c'est un peu le livre d'une fin de vie. Et notamment...
D'ailleurs, si je peux...
Ouais.
Excuse-moi, ouais. C'est, si je peux me permettre de réagir, puisque justement, la citation d'Anthony Burgess, dont je t'avais parlé justement sur Le vieil homme et la mer, il dit justement que chaque mot... Ça, c'est en parlant du vieil homme et la mer. Il dit que chaque mot... a une signification et qu'il n'y a pas un seul mot qui est de trop. Ça, c'est pour parler du vieil homme et la mer. Donc c'était un peu ce que tu disais, c'était en réaction à ta précédente citation.
J'apprécie beaucoup quand tu t'appuies mes citations, c'est très aimable. D'ailleurs, si t'as d'autres trucs pour appuyer ce que je dis, c'est vachement cool.
Alors ça, c'était une citation qui était en quatrième de couverture sur mon édition, donc j'ai pas vraiment cherché, mais si tu veux, je peux en chercher d'autres. Je vais
en tant que spécialiste de la quatrième de couverture. Pour revenir au grand thème du bouquin, donc que Hemingway s'est sûrement dépeint ou dans ce personnage, dans ce vieil homme qui dispute un peu son dernier combat, c'est la fin notamment du bouquin en est l'illustration parfaite, où il y a une forme de fatalité... lié à la perte de ce marlin qu'il a durement pêché. Tu veux nous en parler un peu plus ?
Ouais, bah alors en fait, ce qui se passe, c'est que à un certain moment dans le roman, à peu près à la moitié de l'histoire, après qu'il ait réussi à finalement attraper ce marlin, son embarcation se fait attaquer par d'abord un, puis deux requins, puis encore d'autres. Attiré par le sang que laisse l'animal blessé, et ils attaquent progressivement donc le marlin. Et à ce moment-là, on voit en fait la solidarité que ressent le vieil homme envers l'animal qu'il a attrapé. Comme on l'avait dit, c'est pas autant un combat avec contre un animal qu'un combat avec lui-même. Donc il ressent une véritable amitié pour ce poisson, et une véritable tristesse aussi quand il commence à se faire attaquer par des bandes requins.
Alors, le fait que le marlin qu'il a capturé se fasse manger petit à petit par des poissons, ça le désole complètement. Il est... Et même, il insiste plusieurs fois, et il dit, il regrette presque d'avoir fait ce combat avec le marlin pour finalement...
Il s'excuse plusieurs fois.
Ouais, il s'excuse en fait pour plusieurs fois finalement servir de nourriture au requin. Il s'excuse en fait d'avoir tué un animal aussi noble, à l'issue d'un combat aussi noble, et de se le faire piller par des charognards. Ça l'énerve profondément, et c'est ce qui lui permet d'arriver, de rentrer à bon port malgré les syncopes, malgré la fatigue, etc. Donc en fait, à la fin, il rentre au port et il n'a clairement plus qu'une carcasse de poisson. Mais il n'empêche que sa déception ne transparaît pas trop dans le bouquin. Et c'est ce qui me faisait dire au début que que le combat est plus important que la pêche en que le enfin la pêche donc le combat est plus important que le fait de ramener un énorme animal au port.
Là, tu parlais de là, je me permets de rebondir là sur ce que tu avais dit sur Malraux. Moi, je pense que la différence, puisque j'en avais déjà discuté auparavant, la différence entre Malraux et Hemingway, c'est que Malraux allait au combat pour défendre ses idéaux de liberté, donc avec l'espoir. Quand il était parti avec la guerre civile espagnole, il était en farouche défense donc du camp républicain. La différence, c'est que Hemingway, lui, il aime le combat, en fait. On l'a vu donc à la Première Guerre mondiale, il n'était pas du tout obligé, il était volontaire. Il a été combattre volontairement, et à la guerre civile espagnole, c'est la même chose. Et on retrouve le reflet de cet amour du combat dans Le vieil homme et la mer. Je pense que justement, c'est le combat, c'est l'idée du combat qui est extrêmement importante à la fois dans l'œuvre et dans la vie d'Hemingway.
Ouais, alors je te rejoins tout à fait, et je vais même faire un point Godwin en un coup, en disant que, en gros, pour tenir une comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale, Malraux, c'était le Waffen-SS, l'idéologue, il allait au combat pour ses idées, quand Hemingway était juste un mec de la Wehrmacht, un mec qui aimait le combat pour le combat.
Est-ce que tu as fait cette référence parce que tu sais ce que va être ma recommandation ?
Peut-être.
Suspense.
Est-ce qu'on a un dernier mot à dire sur ce bouquin ? Et d'ailleurs, oui, on devra le finir par le classer dans notre top 50.
Alors, moi, je vais dire ce que j'en ai pensé. J'ai trouvé l'écriture brillante. J'ai trouvé l'histoire passionnante. J'ai trouvé qu'en très peu de mots, il en disait beaucoup. Et c'est ça qu'on aime. Il y a aucune fioriture.
À l'inverse,
je pense que c'est à l'inverse de nous, tout à fait. Ouais, il y a pas de redites. Tout est efficace. Et il n'y a eu aucun moment réellement où je me suis emmerdé, où je me suis dit tiens, j'aimerais bien quand même qu'il arrive au bout de son combat. Je dirais à l'inverse de l'enfer d'Henri Barbusse, où il y a des moments où tu te dis bon allez, viens-en au fait. Voilà, j'ai beaucoup apprécié.
Moi aussi j'ai beaucoup apprécié. Notamment c'est un des premiers bouquins qui utilise une écriture, enfin à cette époque là donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'était une écriture très moderne, hein, à l'époque, d'écrire comme ça, d'aller aussi rapidement au fait, de décrire beaucoup moins les paysages quand ce n'est pas utile, en fait. Et donc moi aussi j'ai beaucoup apprécié ce bouquin que j'ai lu d'une traite ou quasiment très rapidement. L'écriture, elle est vraiment très très agréable.
Et d'ailleurs, je voulais aussi dire que je trouve ce personnage très attachant. Cette manie qu'il a de se parler à lui-même et de s'expliquer les choses à lui-même comme s'il l'expliquait à quelqu'un d'autre, je trouve ça vraiment attachant. Le fait qu'il soit, d'ailleurs, qu'il soit moqué dès le début du roman, ben on a un peu envie de prendre sa défense, ça nous le rend sympathique.
J'ai une longue théorie sur le sujet, mais je crois que bon, on va s'en passer aujourd'hui.
Puisque là, on va devoir classer Le vieil homme et la mer dans notre liste universelle et internationale des meilleurs romans de tous les temps. Alors, où est-ce que tu le mettrais, toi ?
Alors moi, je le mettrais même au-dessus, je crois, de Retour au pays natal de Thomas Hardy. Donc, je pense que honnêtement, il va prendre la première place de notre classement. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?
Moi, je le mets juste en dessous.
D'accord. Et donc là, comment on fait ?
Alors, est-ce que tu veux qu'on fasse un tirage ? Ou alors non, on essaie de...
On peut faire quelque chose de très radiographique. Un Shifumi.
Faire un Shifumi, ouais.
Radiophonique. Un Shifumi.
Non, est-ce qu'on peut pas les mettre ex aequo ?
Non, parce que j'ai commencé à faire ça avec mes deux parents. Et c'est très désagréable, en fait. Quand tu demandes à tes parents qui est-ce qu'ils préfèrent parmi tes frères et sœurs et qu'ils disent « Ouais, tous ex-aequo », c'est très frustrant. Et j'ai pas envie de revivre ça une énième fois. Du coup, non, je propose qu'on continue d'en débattre encore pendant 2h30.
Moi, je vais te dire pourquoi je le place après. C'est simplement qu'il y a beaucoup plus de complexité dans le retour au pays natal. L'univers est beaucoup plus... Enfin, moi, je suis très amateur d'univers. Je trouve que donc l'univers de Retour au pays natal est beaucoup plus riche en ce sens. Voilà. Après, c'est vrai. En même temps, c'est un Le vieil homme et la mer est un livre de 100 pages, donc c'est difficile de créer un univers propre.
T'as raison. Non, mais je crois que tu m'as convaincu en fait, et je suis convaincu. Alors, je suis très très influençable, comme vous le voyez. C'est pour ça que je ne. Voilà. Donc.
C'est très honorable, il est deuxième. Hein.
Voilà, bon, il est deuxième. Alors, moi, si je dis pourquoi je reste influençable, c'est parce qu'en fait, en tant que. La forme du récit et sa longueur en font clairement un livre qui ressemble à une nouvelle, et moins un roman au long cours comme peut vraiment l'être le livre de Thomas Hardy. Et donc, en ce sens, je pense que mettre Thomas Hardy devant Ernest Hemingway rend la part belle au livre qui place un vrai univers long et complexe, comme tu le disais si bien.
Eh ben, je te remercie. On va passer au... Alors, il n'y a pas de billet d'humeur aujourd'hui, puisque on a beaucoup parlé donc, du vieil homme et la mère. On va passer directement à nos recommandations.
Alors, notre première recommandation sera un bouquin dont le sujet ressemble fortement au Vieil Homme et la Mer. Il s'agit d'une nouvelle de l'auteur italien Dino Buzzati, nommée Le K, L-E, plus loin, K majuscule. Alors, c'est une très très courte nouvelle donc de cet auteur italien, la nouvelle doit faire quelques pages, qui parle d'une espèce de poisson assez impressionnant que personne n'a vu. Ce poisson représente vraiment le mystère, qui suit les individus qui vont mourir. En fait, si un pêcheur voit le K, ce K ne le lâchera jamais quand ce pêcheur sera en mer, et ça signifie que ce personnage va mourir. Et à la fin, on découvre qu'en fait, cela ne signifie pas du tout que le K tue les gens, mais cela signifie seulement qu'il les accompagne jusqu'à leur mort. Donc en fait, c'est très très beau pour dire qu'il faut tenir à la vie et la vivre tant qu'on en est capable, et non pas se concentrer sur une mort qui va de toute façon arriver. Alors cette nouvelle a été écrite en 1966, donc l'auteur avait lui-même 60 ans, donc pareil, il était en fin de vie. Et donc on peut un peu rapprocher ça, au niveau des dates, etc., du contenu, on peut un peu rapprocher ça du vieil homme et la mère d'Hemingway.
Bah, je voulais aussi souligner la qualité, en plus de la nouvelle, juste le cas, carrément de tout le recueil de nouvelles, il y a vraiment des très très belles histoires, dont une sur un petit gamin qui va au parc avec sa mère, et il lui arrive des péripéties, et la fin c'est un peu un plot twist à l'américaine, et c'est incroyable, et ça dure 10 pages hein. Chaque histoire dure 10 pages, donc c'est vraiment très qualitatif, on en a pour son argent.
Donc voilà, pour reparler un peu de l'auteur, Dino Buzzati, c'est l'auteur du Désert des Tartares, donc c'est un de ses seuls romans longs, un roman qui doit faire plusieurs centaines de pages hein. Et il a souvent des nouvelles qui ont des rapports très très forts avec tout ce qui est l'imaginaire, la limite des possibles, etc. Donc c'est très très agréable de lire ces nouvelles où il ne s'arrête pas. Enfin, pour le coup, ça ressemble à ce sujet-là, ça ressemble pas du tout à Hemingway. C'est qu'il s'arrête très rarement aux limites du raisonnable, enfin aux frontières du réel en fait. Il va souvent un peu plus loin pour trouver des thèmes qui l'intéressent.
Alors moi ma recommandation c'est un peu comme toi, on revient un peu dans le temps, c'est une vieille recommandation puisque l'année dernière on a fêté les 10 ans de la parution du roman Les Bienveillantes de Jonathan Little, qui pour la petite histoire, voilà, il y a plein de petites histoires autour de ce roman, il a été publié tardivement pendant l'été par Gallimard, et il a raflé les plus grands prix, donc c'est-à-dire il a gagné le Goncourt et il a gagné aussi le prix de l'Académie française, alors que l'auteur est américain, qu'il a écrit en français sur un personnage allemand. Alors, je vais raconter rapidement l'histoire. Le personnage en question s'appelle Max Haue, Et Max Aue, c'est un soldat dans les Einsatzgruppe, donc les Waffen-SS, qui suivait la progression de l'armée allemande sur le front de l'Est et qui était chargé d'exterminer les juifs, les poches de population juive sur le chemin. Et leur but, c'était, leur rôle était de trouver des manières, les manières les plus efficaces pour pouvoir tuer le plus de gens possible en dehors des camps de concentration. Donc on a des descriptions très longues sur la meilleure manière de tuer une personne sans salir ou sans faire trop de dégâts.
Ou alors les choses dont je me souviens moi de ce bouquin, c'était notamment comment tuer plusieurs personnes avec une seule balle, c'est des choses comme ça. Enfin pratiquement, voilà, ouais. c'est des choses comme ça, voilà.
Tout à fait, ouais. Il y a tout un passage sur une économie donc de l'extermination. C'est combien coûte une personne à tuer, combien ça coûte de tuer tout un groupe, de les placer, de les enterrer, voilà, de les faire travailler, de les nourrir. Mais au-delà de ça, en fait, c'est ce contexte très dur de la Seconde Guerre mondiale et de l'extermination. Mais au-delà de ça, on a aussi un personnage qui est un psychopathe, puisque il est parricide, matricide, il est homosexuel, il aime tuer ses amants, il aime tuer des personnes un peu au hasard comme ça, de la manière la plus féroce possible.
Alors, juste pour anticiper sur les plaintes des associations LGBT, quand Mathieu dit qu'il est psychopathe, homosexuel ne fait pas partie des qualificatifs.
Non, il est concrètement psychopathe et il s'avère aussi qu'il n'est pas hétérosexuel. Mais ça vient pas du tout en rentrer en ligne de compte pour ça.
Mais il est aussi.
Ouais. Et il est aussi, je tiens à le préciser, il est à moitié français aussi. Et normalement, ça c'était une des incorrections du roman. Normalement, quand on n'est pas purement allemand sur deux ou trois générations, on ne peut pas faire partie à un certain grade, puisque lui il est quand même Obersturmführer, donc c'est un grade assez élevé dans l'armée allemande. Normalement, à l'époque, on ne pouvait pas faire ça. Donc sa mère est donc il va régulièrement en France, dans le sud de la France, pour voir sa mère qui est une française. Donc c'est un roman qui fait plus de 900 pages, pour sortir une expression que je déteste, on n'en sort pas intact, puisqu'on n'en sort pas indemne, c'est très long, ça demande beaucoup d'implications, moi je sais que ça m'avait pris pas mal de temps, je sais pas pour toi, puisque on l'avait lu à peu près à la même période, ça t'avait pris du temps aussi.
Moi je l'avais lu, je pense, dans l'année qui avait suivi le Goncourt, alors je me souviens plus du tout du temps que ça m'avait pris, mais en plus... faut avouer que c'est assez lourd comme façon comme lecture en fait, parce que les thèmes abordés sont vraiment pas joyeux. L'écriture c'est pareil, elle correspond au thème en fait, elle est pas légère. Et du coup c'est
elle
un
est
livre
très factuel. C'est beaucoup d'informations. En fait.
Voilà, c'est beaucoup d'informations, de très très précises, etc. Alors ouais. Non pas que ce n'est pas agréable. Mais seulement ça impose disons une vraie concentration de lecture, c'est pas vraiment une lecture du bord de plage, hein, notamment pour les thèmes abordés, quoi.
Non, c'est ça. D'ailleurs, l'auteur qui est américain, il n'est pas du tout, il est ni allemand ni français. Avant d'écrire son livre, qu'il a écrit très rapidement, je crois en quelques mois, un peu à la Jack Kerouac, il a lu 200 livres sur l'armée allemande pendant la guerre. Il s'est renseigné, il parlait pas allemand, donc il a simplement fait ses lectures et de là il en a tiré une histoire avec une somme d'informations incroyable et aussi donc avant le roman on a une grille hiérarchique donc dans l'armée allemande et ce à quoi ça correspond dans l'armée française par exemple pour qu'on comprenne quel grade. Et que ce soit plus facile à comprendre dans la description. Donc c'est les Bienveillantes, paru en 2006, Les Bienveillantes de Jonathan Little.
Alors merci pour cette recommandation. J'ai deux petites remarques à faire sur le sujet, notamment que notre rubrique recommandation en prend un sacré coup dans l'aile avec ces deux livres, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on vous recommande deux livres qui sont déjà mondialement célèbres.
Oui, tout à fait, ouais.
Déjà, ça, c'est assez marrant. Et puis aussi,
aucune
que
honte.
Les trois. Non, aucune. Et surtout que les trois livres dont on a parlé aujourd'hui correspondent à trois façons d'écrire complètement différentes. Donc il y a la façon d'Hemingway, c'est de décrire, de vivre, puis de décrire. La façon de Buzzati, qui ressemble un peu plus à du jus de crâne un peu intellectuel, avec souvent des métaphores très longues, etc. Et la version de Jonathan Little, qui est de beaucoup s'informer avant d'écrire sur un sujet. Mais il a certainement pas vécu autant des Elisabeth Gruppen, on est d'accord.
Non, mais il est assez jeune d'ailleurs. Hein. Quand il a publié Les Bienveillantes, il avait 39 ans. Voilà. Ce qui est quand même, quand on voit ce que c'est assez lourd quoi, pour un écrivain de 39 ans. Je voulais... D'ailleurs, c'est marrant parce que tu parlais des trois auteurs, mais celui qui a gagné le prix Nobel, au final, c'est celui qui a l'écriture peut-être la plus simple. Donc je trouve ça assez intéressant.
Mais c'est vrai, alors je pense que ça fera sûrement le sujet. En fait, on aurait pu en parler aujourd'hui. On va pas faire un débat a posteriori en fin de podcast parce qu'on a des contraintes horaires, etc. niveau pub. Mais ça aurait pu faire l'objet d'un podcast. C'est la façon dont sont choisis les prix Nobel de littérature. Alors on en a déjà parlé avec Bob Dylan dans l'épisode pilote. Ouais. Mais à la lecture de qui sont les différents prix Nobel, on voit bien que ce qui est récompensé, c'est la constance dans l'effort d'écrire et certainement pas le rare. En fait, il y a des écrivains qui ont un excellent style parmi les prix Nobel. La question n'est pas là. Mais ce n'est pas le sujet principal, enfin c'est pas la raison principale de leur nomination à ce prix Nobel. Parce que d'accord, je pense notamment, ouais, j'ai pas d'exemple en tête, mais voilà.
Moi j'en ai, j'ai Tramstrauer, cet auteur suédois que personne ne connaissait qui a gagné il y a 5 ans je crois ou 4 ans. Il y a aussi Alice Munro qui n'est pas non plus un exemple, c'est une très belle écriture, mais c'est pas, on avait pensé à d'autres personnes avant elle, notamment Milan Kundera. Alors bon, aucun d'entre nous n'est un fan de Milan Kundera, mais par exemple voilà, si on prend ma recommandation d'il y a deux épisodes sur Kenzaburo Oe, cet auteur japonais. Qui a gagné le prix Nobel en 1994, son écriture est assez basique au final. Surtout comparé à Albert Camus ou à Jean-Paul Sartre, qui avaient gagné, qui avaient gagné et rejeté respectivement le prix Nobel dans les années 50. 60 ans.
Ouais. Après sur les écrivains japonais, c'est un peu différent, ils ont un style qui est vraiment particulier. C'est souvent des... Le style japonais est hyper bizarre et c'est un peu pareil. C'est Kawabata qui a aussi reçu le prix Nobel, donc dans les années, je sais même pas s'il a reçu un titre posthume, mais c'est souvent fait de phrases courtes, mais tout en n'étant pas forcément très clair. C'est un style qui est très particulier et dont c'est très compliqué de percevoir toutes les nuances, etc. C'est tout en nuances. Tout en zone d'ombre, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit, etc.
Je trouve que c'est juste une manière différente d'amener une idée. En fait, la logique de développement d'une idée est totalement différente de la logique occidentale. Donc parfois c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à se perdre parce que y a des détails qui figurent pas chez nous, qui sont très importants chez eux et qui sont amenés de manière différente. Donc on peut s'y perdre parfois.
Ouais. C'est pour ça que en général phrase par phrase la littérature japonaise et asiatique dans son ensemble, je pense, nous paraît à nous occidentaux très simple. Il n'y a pas du tout les tournures de phrases et les très longues phrases d'un Proust, par exemple, enfin, on est très 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 loin de ça, même dans la littérature du début du XXe siècle. Hein. Mais ça n'occulte en rien la profondeur de cette littérature pour moi, donc qui est très très difficile à juger en fait dans son ensemble. C'est assez cool. Voilà. Tout ça pour dire que c'est compliqué à juger en fait.
Alors bon, là on vient d'avoir un petit débat là sur le prochain livre qu'on lirait. Et puis on s'est dit, donc je rappelle que je suis à Wellington, donc je peux avoir pratiquement que des livres en anglais. Et puis finalement, On s'est dit qu'on allait continuer avec les prix Nobel et JR a eu la très bonne idée de suggérer le livre de la jungle de Rudyard Kipling, puisque rappelons d'ailleurs que la dernière adaptation de Disney est sortie l'année dernière et qu'ils vont en sortir un numéro 2, donc c'est marrant. En fait, on va lire, on va simplement lire le livre de la jungle de Rudyard Kipling pour la prochaine fois.
Alors, petite précision intéressante à tous les littérophiles néo-nazis. Rudyard Kipling a reçu le prix Nobel de littérature, et ouais. Donc, notamment pour l'ensemble de ses écrits de jeunesse, dont les livres de la jungle 1 et 2 notamment. Il a écrit aussi beaucoup de poèmes. Mais ce n'est pas seulement le cas. C'est aussi quelqu'un qui est dans l'actualité, vu qu'il a reçu le prix Nobel il y a 110 ans tout pile.
Allez, ben voilà.
Je crois qu'on est arrivé au bout de ce vieil homme et la mer, et vous avez noté qu'on a laissé les vents nous porter en fin de podcast. Les alizés nous ont emmenés du côté du Japon et des prix Nobel, du côté du livre de la jungle. Voilà.
On a jeté l'encre un peu partout.
Voilà, alors pour faire une conclusion à la Georges Pernoud, est-ce que tu as la citation en tête ?
Oh là,
vas-y. Alors moi je l'ai, Georges Pernoud, prix Nobel en 60. Bon voyage et bon vent.
Salut.
Allez, salut à tous.
Ouais, matelot.